Vous écoutez France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous de l'année 2012 avec Science Publique. Merci d'être fidèle aux émissions quotidiennes de Science sur France Culture. Toute l'équipe de Science Publique vous transmet ses meilleurs vœux pour l'année 2012. Pour reprendre nos bonnes habitudes, vos réflexions et commentaires sont attendus sur le site de Science Publique sur franceculture.fr au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Peut-on ressusciter les instruments de musique anciens ? Au panthéon des instruments de musique mythique, les violons Stradivarius arrivent facilement en tête. Près de la moitié du millier de violons fabriqués entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, dans l'atelier d'Antonio Stradivari à Cremona en Italie, existe encore aujourd'hui, une longévité en rapport avec celle du luthier mort à 93 ans après avoir eu pas moins de 11 enfants. Aujourd'hui, un Stradivarius peut être vendu, lors des mises aux enchères, jusqu'à 11 millions d'euros, prix atteint en juin 2011, lors de la vente de l'exemplaire baptisé « Lady Blunt ». Depuis trois siècles, les spécialistes des instruments de musique s'évertuent à découvrir le secret des Stradivarius pouvant expliquer leur exceptionnelle qualité. Ce secret se cache-t-il dans le vernis, le bois, la géométrie ? Pour répondre à ces questions ou à des questions de ce type, les experts du monde entier donc procèdent à de véritables enquêtes dignes de celles de la police scientifique. Les instruments de mesure les plus modernes sont utilisés pour ausculter les instruments anciens et analyser d'infimes échantillons. Ce travail très pointu conduit à des découvertes surprenantes sur les techniques utilisées au cours du temps par les luthiers. Il reconstitue une histoire des instruments qui croise celle de la musique elle-même et exhume des sons perdus comme ceux qu'entendait Beethoven sur les pianos de son époque. Des sonorités très différentes de celles des pianos d'aujourd'hui. En perçant certains secrets, les scientifiques peuvent aussi détruire certains mythes, comme nous allons le voir avec Stradivarius. Comment procèdent les experts pour retrouver aujourd'hui les secrets de fabrication d'instruments datant de plusieurs siècles ? La restauration des pianos, au violon peut-elle leur redonner vie, c'est-à-dire permettre d'en jouer à nouveau ? Lorsque cela n'est pas possible, la réalisation de facsimilés fidèles nous permet-elle d'accéder aux sonorités originales des instruments d'époque ? Quelle est la contribution du travail des experts scientifiques à l'histoire de la musique ? Enfin, la qualité des Stradivarius justifie-t-elle vraiment leur valeur de plusieurs millions d'euros ? Pour répondre à ces questions et nous préparer ainsi d'une certaine façon à la semaine du son qui débutera le 16 janvier prochain à Paris et dont nous reparlerons plus en détail la semaine prochaine, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques Claudia Frisch qui est chargée de recherche dans l'équipe Lutherie Acoustique et Musique de l'Université Pierre et Marie Curie, Éric de Vichère, directeur du Musée de la Musique à la Cité de la Musique, Thierry Maniguet, conservateur au Musée de la Musique, et Stéphane Weidelich, qui est responsable du laboratoire de recherche et de restauration du Musée de la Musique. Et je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires et réflexions sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Claudia Frisch, bonjour.
Bonjour.
Donc, votre travail a fait l'objet d'une publication récente dans une revue scientifique internationale reconnue, les PNAS. Les spécialistes comprendront. Je l'ai découvert moi-même dans un article publié par le New York Times du 2 janvier 2012. Et semble-t-il, pour l'instant, pas beaucoup d'écho dans la presse française, ce qui est assez paradoxal. Alors, votre travail concerne pourtant ce mythe dont j'ai parlé dans l'introduction, c'est-à-dire les violons Stradivarius. Alors, pour débuter ce débat et peut-être briser ou du moins effriter ce mythe, quel est le résultat de vos investigations ?
Donc, en fait, on a fait une expérience en situation de jeu, cette fois-ci, puisque les Stradivarius ont fait l'objet de beaucoup de tests d'écoute où un musicien était derrière un rideau et avec une audience qui écoutait ce qu'il jouait. Et en fait, d'après l'audience, il n'était pas vraiment possible de distinguer un violon Stradivarius d'un violon moderne. Les grosses critiques, c'était que le musicien en question pouvait voir l'instrument Et surtout, c'était l'audience qui jugeait, ce qui a ses faiblesses, puisque finalement, l'instrument, à la fin, il est acheté par un violoniste et non pas par une audience. Et donc là, notre étude a permis de faire l'expérience sur des violonistes et donc de demander l'avis de violonistes. Donc on a 21 violonistes de niveau très bon à excellent, il y avait des grosses pointures, qui sont venus jouer en aveugle 6 instruments, 3 modernes et 3 anciens, 2 Stradivari et 1 Guarneri del Gesù.
Donc, qui était également un des grands luthiers historiques en matière de violon.
Exactement. Et donc, sur les 21 musiciens, il y en a 13 qui ont finalement choisi, en termes de préférence, un violon moderne à la fin de l'expérience.
Donc, 13 sur 21. Voilà. Mais pour les autres
Alors après, donc, sur les 13, il y en a 8 qui ont choisi le même instrument. Pour les violons anciens, il y en a 5 qui ont choisi... qui ont choisi le Guarneri del Gesù. Et puis après, bon, les autres, ça se répartissait. Et celui qui n'a pas été aimé par personne, sauf une personne, était un des Stradivari.
Il y en avait combien déjà de Stradivarius ?
Il y en avait deux Stradivarius et un Guarneri.
Donc globalement, le résultat est très, très négatif finalement pour les Stradivarius.
Voilà. Bon, alors après, il faut remettre ça dans le fait que c'était 21 sujets. Donc si on veut faire ce qu'on appelle une inférence statistique à une population plus large, on ne peut pas conclure quant à une préférence pour les violons modernes. Mais en tout cas, on peut conclure par rapport au fait qu'il n'y a pas de préférence nette pour les violons anciens, comme on aurait pu le supposer en raison de leur réputation et de leur valeur monétaire.
Un autre biais, c'est peut-être aussi que chaque Stradivarius est différent des autres, oui, dans la mesure où il n'y a pas de production en série datant d'il y a 3 siècles.
C'est sûr, mais c'est aussi le cas pour les violons modernes. Chaque violon moderne est différent. Et donc finalement, l'étude, ce que je dirais finalement le résultat le plus important, c'est que la classification ancien versus moderne n'a pas de sens. C'est finalement ce violon-là par rapport à ce violon-là. Peu importe qu'il soit vieux ou moderne. Le musicien, s'il est en condition d'aveugle, ne peut pas distinguer. De toute façon, on leur a demandé s'ils pouvaient dire de quelle période étaient les violons qu'ils jouaient. Ils n'en étaient pas capables, à part 3 qui ne se sont pas trompés. Les autres se sont trompés. Donc ça veut dire que finalement, ce qui est important pour un musicien, c'est le violon, un violon particulier en fonction de ses caractéristiques, peu importe qu'il soit vieux ou moderne.
On y reviendra, mais ça quand même éclaire une réalité par rapport à la valeur de l'objet financièrement. Enfin.
La valeur de l'objet tient au fait que c'est un objet rare, beau, qui a traversé l'histoire.
Et qui est attaché à une légende aussi. Voilà. Stéphane Wedlich, bonjour.
Bonjour.
Vous avez vous-même travaillé donc sur les Stradivarius dans votre laboratoire, donc le laboratoire de la Cité de la Musique. Du musée de la musique à la Cité de la Musique, pour être précis. Et vous avez vous-même essayé de percer ce mystère qui a longtemps intrigué les spécialistes. C'est-à-dire pourquoi les Stradivarius, alors on vient d'apprendre qu'ils ne sont pas si différents. Enfin, pendant longtemps, on a cru qu'ils l'étaient.
Oui, la mission d'un musée, c'est de conserver. Le laboratoire a essayé de comprendre ce que l'on avait à conserver. Hein. Pour essayer de conserver correctement, il faut autant que faire se peut savoir ce qu'on conserve. Et donc, on a commencé à réfléchir depuis plusieurs années sur quelles sont les matières employées. Et on est tout de suite tombé sur une des grandes questions qui a agité l'histoire, qui est le vernis. Voilà, puisque c'est aussi en termes de perception, peut-être aussi important que la dimension sonore dont on parlait il y a quelques minutes. Voilà. Et on a déroulé l'armada scientifique contemporain de la chimie qu'est capable de nous offrir la chimie aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'on avait entre les mains. Et on s'est rendu compte qu'on avait des recettes assez simples, que ces recettes, on pouvait les pister un peu avant, un peu après. On avait quelque chose finalement de très simple. Ce qui est assez logique au niveau en termes d'artisanat, puisque c'est assez fréquent que dans l'artisanat, une recette qui fonctionne ne soit pas modifiée.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de secret justement, que ce sont des produits naturels qui n'ont pas une influence particulière sur le son finalement, c'est ça que vous avez découvert ?
L'influence sur le son, je me garderais bien de statuer là-dessus. Je crois que tout influe sur tout. Ce qui est très intéressant, par exemple, dans la démarche artistique, s'il y a une démarche artistique chez ces facteurs, c'est cette volonté qu'il y a eu de coloration, par exemple, du vernis, où on retrouve, parce que l'on a identifié les pigments et les colorants qui sont présents, on retrouve une volonté de faire des instruments avec une dominante rouge.
Voilà. Alors, on a parlé aussi d'hypothèses sur la datation des bois utilisés qui auraient été influencés par le petit âge glaciaire, des choses très particulières aussi, pour essayer de conférer peut-être un peu de particularité à ces violons.
La datation des bois, quand il s'agit des résineux, donc ce qu'on appelle le sapin, l'épicéa, les sapins de Noël sont des résineux, on arrive assez fréquemment à les dater grâce à la technique de dendrochronologie. Il s'agit en fait d'examiner le bois de manière assez attentive en regardant sa vitesse de croissance et en associant sa vitesse de croissance à des problématiques climatiques, justement. Et en s'appuyant sur le patrimoine bâti, puisque les charpentiers ont eu l'ingénieuse idée de dater leurs charpentes, on peut reconstruire comme ça des échelles qui nous permettent de positionner un arbre dans une échelle de temps à un endroit donné et pour une essence de bois bien particulière.
Thierry Maniguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur au Musée de la Musique. Quelle est l'importance de tels travaux en matière peut-être d'histoire aussi de la musique? Comment cela s'inscrit dans la perspective historique? Est-ce que ce sont des éléments dont vous nourrissez pour écrire l'histoire de la musique?
Bien évidemment, le violon est, j'allais dire, un cas un tout petit peu à part dans l'instrumentarium moderne, puisque finalement, c'est le seul instrument, quand on regarde un orchestre, auquel on prête une valeur d'autant plus importante qu'il est ancien. Tous les autres instruments, plus ils sont anciens, plus ils sont usés et moins ils sont goûtés par les musiciens.
Le violon, c'est un peu comme le vin, quoi.
Donc, le violon et la famille du violon, et j'allais mettre de côté l'alto, parce que l'alto dans cette famille, étant donné que les altos anciens sont de petite taille, alors ceux-là sont peu goûtés par les musiciens, puisque le répertoire d'aujourd'hui, l'alto a un rôle plus important peut-être. Et il faut en effet, pour que cet instrument sonne, qu'il soit de suffisamment grande taille. Et on n'en trouve pas, ou très très peu, parmi les instruments anciens. Donc le violoncelle et, dans un moindre degré, la contrebasse, sont un peu des cas à part. Et c'est vrai que quand on a un instrument de Stradivarius, comme on dit, ou Guarneri entre les mains, surtout Stradivari, on a une très jolie machine. C'est de la très jolie facture. Et il faut bien voir que finalement, si on reprend une analyse acoustique, ce n'est pas du tout la même machine que l'on a aujourd'hui entre les mains que celle qu'a construite Stradivari ou les personnes qui étaient dans son atelier.
Qu'est-ce qui reste de l'original?
Alors, ce qui reste, c'est beaucoup. C'est la caisse. C'est déjà beaucoup. C'est tout ce qui se voit, déjà. Mais sur le plan acoustique, on a changé le manche, on l'a agrandi, on a changé le renversement des cordes, l'angle que font les cordes avec la table. Et du coup, la pression sur la table est assez différente. D'autre part, on a changé une barre à l'intérieur qui est un résonateur extrêmement... qui a un rôle essentiel, notamment pour les graves, on n'a plus la même machine acoustique. Et aujourd'hui, un musicien d'aujourd'hui, l'instrument qu'il joue, c'est un violon modernisé. On en connaît un seul, qui est dans un musée en Angleterre, à Oxford, qui a gardé toutes ses caractéristiques d'origine. Et les musiciens d'aujourd'hui ne joueraient pas cet instrument.
Et on pourrait en jouer?
On pourrait en jouer, sauf que la touche étant plus courte, on ne pourrait pas jouer tout le répertoire qu'un musicien d'aujourd'hui joue. Il n'y aurait pas le dernier démanché, le tasseau, je rentre un tout petit peu dans les détails de construction de l'instrument, mais on ne pourrait pas avoir toutes les positions qu'on peut avoir sur un violon moderne. Le musicien serait extrêmement désorienté, sauf un musicien qui, lui, s'est spécialisé dans le jeu de ses instruments anciens et qui, lui, a retrouvé un certain mode de jeu qui était ceux du musicien.
Donc ça veut dire, ce que vous me dites là, c'est que l'instrument, par exemple, qui a été vendu 11 millions d'euros, est un instrument qui a été reconstruit pour une bonne part.
Alors reconstruit, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas, il a subi
quand on change la longueur du manche...
Oui, puis on a changé. Pas... Même le matériau des cordes est différent. En effet, c'est un instrument qui a évolué avec la famille du violon. Alors, c'est quelque chose de formidable. Il y a très peu d'instruments qui auraient pu subir ça. Un violon, quand il n'est pas monté, ça fait quelques centaines de grammes, 250 grammes. Et lui faire subir ces interventions-là, et qu'il puisse encore sonner, c'est déjà un exploit. Alors maintenant, le cas du violon m'intéresse tout particulièrement, et nous intéresse tous, c'est que le violon, c'est peut-être un des rares instruments où on reconnaît, et je trouve que l'étude de Claudia Fritz est extrêmement intéressante, on reconnaît tout autant, finalement, et peut-être plus, le musicien
en effet.
Que l'instrument. Je connais peut-être un autre instrument comme ça, qui est le saxophone. C'est-à-dire qu'il y a le musicien a dans cet instrument, des champs de liberté en timbre, en mode de jeu, en intensité telle, c'est lui qui fait le son. Et donc le musicien, c'est un musicien professionnel, c'est quelqu'un qui se met en danger dans l'exercice de son art. L'instrument est un vecteur et quand il le fait, il doit être en parfaite confiance. Et peut-être que plus que dans d'autres instruments, en effet, il transfère dans cet instrument énormément de vecteurs de pensée qui font que ça explique vraisemblablement le côté iconique de certains instruments qui ont traversé les années.
Éric de Vichère, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez ce musée de la musique à la Cité de la musique et donc ce musée qui rassemble finalement un peu, pour une bonne part, le produit du travail du laboratoire qui lui est associé.
Je dirais que la mission du laboratoire est vraiment au cœur du projet, du dispositif du musée. Le musée, c'est effectivement, comme le disait Stéphane Wedlich, c'est une collection. Il y a comme mission première de conserver cette collection. Mais je pense que c'est aussi un outil dynamique, en quelque sorte, de recherche et d'exploration, et qui vise, comme le disait Thierry aussi, je dirais, mettre en relation justement ce patrimoine matériel, ces instruments qui ont traversé l'histoire, avec ou sans transformation, selon les différents types d'instruments, d'ailleurs.
Il y a combien d'instruments, à peu près ?
On est autour d'une collection d'environ 7000 objets, instruments pour la plupart, mais il y a aussi des outils, il y a des documents graphiques et un peu de peinture. Il y a donc tout ça touche évidemment à l'histoire de la facture instrumentale.
Dans des objets uniques, pour certains, comme cette immense contrebasse.
Voilà, exactement, l'octobasse.
L'octobasse qui mesure
qui avait été faite par Guillaume. C'est plutôt 3 mètres. C'est combien la hauteur
On l'a plus en tête. Bon, de l'ordre de 3 à...
Oui, un tout petit peu moins de 3 mètres. Ouais, c'est grand, déjà.
Ça fait très grand pour un instrument. Oui.
Bah, c'est aussi une histoire, quelque part, de l'invention et de la créativité des facteurs et des luthiers au cours des siècles. Parce que lorsqu'on traverse les différentes périodes et les différentes salles du musée, on voit qu'à chaque période, il y a eu des moments d'exploration, d'invention. Il y a eu des moments aussi où... quelque sorte, la facture s'est stabilisée, quelque part, arrive à une sorte de forme qui fait consensus presque entre les différents facteurs. Il y a des modèles qui s'imposent. Je pense qu'on peut reparler de Stradivari aussi, qui a été quand même un modèle aussi qui s'est imposé pour les luthiers du 19e siècle. Et donc, cette histoire-là, elle est racontée dans le musée. Et ce qu'on a toujours cherché aussi, en tout cas à l'adresse du visiteur, c'est de faire le lien entre les instruments, le répertoire, les compositeurs, les musiciens. Et en ce sens-là, je pense que le musée est peut-être extrêmement vivant dans cette sorte de réservoir patrimonial.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui de la question « Peut-on ressusciter les instruments de musique anciens ?» avec Claudia Frisch, chargée de recherche au CNRS dans l'équipe Lutry Acoustique et Musique de l'Université Paris Pierre et Marie Curie, Éric de Vichère, directeur du Musée de la Musique à la Cité de la Musique, Thierry Maniguet, conservateur au Musée de la Musique et Stéphane Wedlich, responsable du laboratoire de recherche et de restauration de ce Musée de la Musique. Oui, Claudia Fritz, c'est cela. Je me suis trompé. Excusez-moi, Stéphane Wedlich, je voulais rebondir sur les propos de Thierry Maniguet.
Oui, Thierry disait à juste titre que l'extérieur de ces instruments est semblable. Il mettait en évidence l'extraordinaire malléabilité de cet instrument au regard de l'évolution du répertoire. Et beaucoup de choses se passent à l'intérieur. Une évolution des épaisseurs des plaques, une modification des pièces de renfort, une adaptation de l'ensemble de ces éléments au répertoire et aux ruptures technologiques. L'apparition de matériaux contemporains dans la fabrication des cordes bouleverse complètement la manière que les luthiers pourront avoir de travailler sur l'instrument, de le régler, de le mettre en adéquation avec le musicien, hein, de faire en sorte que cet instrument lui colle à la peau. Et du coup, comme ça a été souligné assez évidemment, que ce soit le musicien qui joue et que le violon ne soit que l'instrument de cette musique.
Alors donc, si j'ai bien compris le travail de ce laboratoire, vous avez deux missions qui est pour l'une de restaurer, on va dire, d'une certaine façon, les instruments pour qu'ils soient présentés dans le musée. Et dans ce cas-là, ils sont statiques, c'est-à-dire ce sont des objets d'art, des objets qui évoquent l'histoire de la musique. Et puis, contrairement à peut-être d'autres musées, vous avez cette vocation de susciter la fabrication de facsimilés qui, eux, deviennent des instruments vivants destinés à être joués et pas uniquement exposés. Éric de Vichère.
Ben, je pense qu'on considère que, en quelque sorte, le patrimoine, il est double. Il est matériel, effectivement. Donc, ce sont les objets qui font partie de la collection. Et puis, il y a ce patrimoine immatériel et qui est le patrimoine sonore, qui est la dimension sonore de ces instruments. Ça renvoie, effectivement, un petit peu à cette double fonction d'objet d'art et d'objet fonctionnel. Alors, nous essayons, dans la mesure du possible, de maintenir cette double fonction. Donc de faire entendre l'instrument lorsque c'est possible, mais il y a des cas où effectivement cette mise en état de jeu pose un vrai problème de conservation et donc met en danger l'existence même de l'instrument. Or, c'est vrai que nous avons une mission première qui est de les conserver aussi pour, je dirais, pour les générations futures. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a différentes méthodes qui permettent d'accéder à ce patrimoine sonore. Soit ça peut être une mise en jeu extrêmement limitée dans le cadre, par exemple, de campagnes d'enregistrement où, je dirais, la contrainte et la pression est moins forte que si on le confie à un musicien pour un concert, par exemple. Mais il y a aussi effectivement d'autres stratégies qui ont été menées depuis l'origine du musée, qui est cette politique de facsimilé, donc de construction de copies d'instruments, de ces instruments de la collection, où il y a en amont de la fabrication même de l'instrument tout un travail de recherche qui est mené au sein du laboratoire pour arriver finalement à une sorte de cahier des charges extrêmement précis pour la fabrication de l'instrument.
Alors l'un des derniers facsimilés que vous avez réalisé, ou du moins dont vous avez piloté la réalisation, est un piano Erard qui a été reconstitué, donc un piano de 1802 qui a été reconstitué, j'allais dire à l'identique, c'est-à-dire le plus proche possible de l'identique. Oui. Pour en juger, on va en entendre quelques notes donc jouées par le pianiste Daria Vadeva. Et qui est un morceau en rondo de la sonate en do dièse mineur d'Hyacinthe Jadin. Thierry Maniguet, on entend donc ce piano. Qu'est-ce qu'il a de... On sent qu'il est très différent d'un piano. Si on entendait un Steinway pour prendre la norme actuelle, il sonnerait très différemment. Pourquoi ?
C'est vrai qu'il est assez différent. Déjà, on le trouve peut-être un peu plus clair qu'un piano moderne. On sait bien que c'est un piano. On reconnaît tous les attributs de la corde frappée. On entend le marteau. Et en même temps, on est devant une autre identité sonore. Cet instrument, en fait, c'est une découverte, une redécouverte. C'est un instrument pourtant qui a eu une importance extrême. Il a été construit en petite série, mais en série quand même de la fin du 18e jusqu'en pratiquement 1810. On sait qu'il y en a eu 260 de fabriqués. Et aujourd'hui, en existe une grosse dizaine, dont finalement deux en état de jeu, un qui appartient à la reine des Pays-Bas et l'autre qui était en main privée, dans une collection privée, qui lui-même d'ailleurs est peut-être un prototype. Donc pas forcément dans un état original. Donc finalement, l'identité sonore de ces instruments était pratiquement inconnue.
Donc là, vous parlez des pianos Erard.
Erard de cette époque-là.
Produit par Erard, qui était un Français et qui donc a
produit... Sébastien Erard, en effet, qui, installé à Paris en 1780, va fonder une des plus grandes maisons parisiennes et françaises. Or, ce piano se révèle être le premier piano de concert français de l'époque. Et non seulement en français, mais en faisant des recherches, on s'est aperçu que Haydn et Beethoven ont possédé un instrument de ce type-là, qui était d'une étendue un peu plus importante que ce qu'ils avaient, et que vraisemblablement, ça a influé sur leur composition, puisqu'on s'aperçoit que les sonates de Beethoven, notamment, l'étendue augmente aussi à partir du moment où il reçoit cet instrument. Et l'idée était en effet d'essayer de retrouver cet outil de composition, quelque part, de retrouver quel pouvait être l'environnement sonore qui avait accompagné, suscité, en tous les cas, ces créations qui fonda dans l'histoire de la musique. Et pour cela, comme le disait Eric, on pouvait soit restaurer l'instrument que nous avons dans les collections, qui est 1802, mais très vite, on s'est aperçu que si on prenait ce choix-là, on allait devoir finalement intervenir de manière tellement importante qu'on allait détruire des éléments de compréhension de cet instrument qui était essentiel. Donc nous avons fait le choix de faire une copie exacte, un fac-similé, faire pareil. On a essayé de s'approcher autant que faire se peut de l'instrument d'origine, de retrouver, et Stéphane en dira plus que moi sur le sujet, de retrouver toutes les techniques, tous les matériaux qui ont pu servir pour la mise en œuvre de cet instrument.
Alors justement, Stéphane Velich, c'est un travail de bénédictin, on dirait. C'est-à-dire qu'il faut aller retrouver les matériaux de chaque composant d'un piano, qui en compte pas mal.
Oui, c'est un côté Sherlock Holmes qui est plutôt excitant et passionnant pour les équipes, qui nécessite forcément un travail collaboratif. Collaboratif, ça veut dire plusieurs métiers différents, hein, des chimistes, des physiciens, des historiens, de la psychoacoustique. Enfin, il faut essayer de mélanger des équipes pluridisciplinaires, sinon on n'a aucune chance de pouvoir comprendre quoi que ce soit. Et puis, comme soulignait Thierry, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un objet original. Et puis, c'est donc du coup, pour nous, au laboratoire, de définir ce que ça veut dire un petit peu dans le détail original sur le plan de la matière. Est-ce que ce matériau-ci, cette matière transformée est originale ou pas? Et quand on a la chance d'avoir, comme sur ce piano de 1802, presque tout d'original, c'est aussi un énorme problème parce que retrouver ces matériaux pose des questions techniques et technologiques très importantes. Et pour retrouver ces matériaux, pour essayer de reproduire un objet comme cela, eh bien, il faut donc comprendre pièce par pièce, bout par bout, comment fonctionne l'objet. Et sur le piano en particulier, cette petite partie assez magique qui est le marteau, qui vient frapper la corde et qui vient par cela transmettre l'énergie du musicien et produire la genèse du son. Donc on a beaucoup travaillé sur le cuir, là encore, de manière collaborative, évidemment.
D'accord. Et donc le résultat, c'est un piano qui est censé reproduire le son qu'entendait Beethoven ou Haydn à l'époque où ces pianos ont été construits. Et on a quand même, de certaine façon, pas la preuve que ce son est le bon, Éric de Vischer, à moins d'avoir peut-être écouté celui de la reine de...
La reine des Pays-Bas.
La reine des Pays-Bas.
Je pense qu'il faut être effectivement très prudent et c'est toute cette question de l'authenticité qui a traversé tout le courant de la musique baroque, d'ailleurs, depuis 30 ou 40 ans. Et je pense qu'effectivement, il faut être prudent. Je pense qu'on essaye d'avoir, je dirais, un maximum d'indices qui nous permettent de se dire qu'on se rapproche du son de l'instrument original. Maintenant, il y a un tout autre volet qui est un volet justement plutôt psychoacoustique et perceptif, qui est en fait voilà comment entendait-on aussi à l'époque, et puis historique aussi, dans quel genre de lieu, quel genre de salle. Donc il y a toute cette composante aussi, comme disait Stéphane Vedli, je crois que ce projet pluridisciplinaire, il implique aussi l'histoire des sciences, l'histoire de la musique, l'histoire des salles de concert, des pratiques de concert. Enfin, toutes ces choses-là doivent quelque part se retrouver dans une exploration dont ça reste quand même toujours des énigmes, effectivement.
Et en même temps, on découvre que les interprétations qu'on connaît aujourd'hui au niveau du piano d'œuvres de cette époque, elles, ce dont on est sûr, c'est qu'elles ne correspondent pas du tout à ce qu'entendait le compositeur lorsqu'il les a créées.
Voilà, effectivement. Et je pense que réentendre ces œuvres sur des instruments, en tout cas proches de ceux que le compositeur avait sous la main, nous éclaire, me semble-t-il, aussi sur l'écriture, nous fait découvrir de nouvelles choses sur l'écriture même de ces compositeurs. Donc, moi-même, je ne suis pas un fanatique de l'instrument ancien qui dirait il faut absolument, on ne peut plus jouer Beethoven que sur ces instruments-là. Je ne pense pas. Je pense que la musique, de toute façon, elle a traversé l'histoire. Et justement, encore une fois, on ne l'écoute pas de la même manière. Mais en revanche, et c'est vrai pour Beethoven, comme c'est vrai pour Chopin, comme c'est sans doute vrai même aujourd'hui, on redécouvre les pianos que Debussy avait sous la main, des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, jouer cette musique sur ces instruments-là nous apprend, me semble-t-il, beaucoup de choses sur la musique elle-même.
Voilà, c'est quand même une différence avec d'autres arts, comme la peinture ou la sculpture, qui, eux, ont laissé des traces qui sont finalement celles d'origine. Mais avec la musique, là, il y a forcément une interprétation qui peut en modifier beaucoup le sens. Claudia Friis, est-ce que vous travaillez sur ce genre de problématique également dans votre laboratoire, donc dans l'équipe Lutry Acoustique et Musique de l'Université Pierre et Marie Curie ?
Non, nous, on est plutôt dans la compréhension des, finalement, physiques des instruments, donc le fonctionnement des instruments. On n'est pas dans l'esprit de restauration. Laboratoire de la Cité de la Musique le fait très bien et on peut les aider pour certains aspects de fonctionnement mécanique où on ne se situe pas dans le même...
Il n'y a pas de facsimilé de Stradivarius?
Non. Ben si, tous les violons modernes.
Tous les violons modernes.
Tous les violons modernes.
Et même les violons anciens.
Mais ils ne prétendent pas à ce titre, quoi. C'est-à-dire, c'est ça
beaucoup
la différence.
Beaucoup sont signés. Si,
si parce que la plupart des...
Très fréquemment de 1721, d'ailleurs.
Voilà, la plupart des instruments sont marqués modèle Guarnari ou modèle Strad.
C'est, avec une belle reproduction d'étiquette à l'intérieur.
Voilà, donc la notion d'original est compliquée. Hein. La notion d'unicité dont on parlait au début de l'émission.
Alors les pianos, les violons effectivement, mais il y a aussi Thierry Maniguet, plein d'autres instruments. Vous nous avez amené d'ailleurs des extraits d'autres extraits issus de d'autres facsimilés que vous avez pu traiter.
Oui, en effet, nous parlons d'un projet récent qui était le piano, de façon assez récente aussi, nous avons travaillé sur un instrument extrêmement important pour lequel il existait, il y a de cela encore quelques années, que de la littérature, des dizaines et des dizaines de pages de littérature, c'est la viola de mano. La viola de mano, cette viole de main, c'est l'ancêtre de la guitare, ou en tous les cas, une des formes primitives de la guitare, attestée dès le XVe siècle. Toute cette littérature est du XVIe siècle, et on n'avait pas d'instrument. Nous avons la chance de posséder un instrument qui est en pièces détachées, pour le décrire de manière un peu...
Un peu en vrac.
On pourrait dire les choses comme ça, mais en tous les cas, voilà un instrument pour lequel on ne peut absolument pas le restaurer, parce que sur le plan dimensionnel, les bois ont varié, ont bougé, et si on devait le restaurer, on devrait recouper tout ça, et finalement, on ferait un autre instrument. Il y a deux autres instruments qui sont connus dans le monde, un autre à Paris, au musée Jacquemart-André, et un autre qui est à Quito. Ce sont les trois seuls exemplaires que l'on connaît de viola. Ils ont tous les trois une forme assez différente, mais en tous les cas, aucun de ces instruments n'était en état de jeu. Et nous avons, en effet, reconstitué, là, ce n'est pas un facsimilé, on a fait une reconstitution à partir des éléments qu'on avait de cet instrument totalement inconnu. Et là, on parlait tout à l'heure de supposition par rapport au piano. Là aussi, c'en est une.
Encore plus, peut-être, parce que vous partez de moins, de quelque chose,
voilà,
de moins construit.
Exactement. Donc là, il a fallu véritablement étudier avec une exactitude la plus extrême possible des matériaux, mais aussi faire une modélisation acoustique. Et tout à l'heure, on parlait des collaborations qu'il peut y avoir entre le LAM et nous. Voilà typiquement ce genre de sujet sur lesquels on a été amené à travailler ensemble pour reconstituer cet instrument. Et comme en effet, on en avait des éléments qui peuvent paraître assez disparates, on en a fait une modélisation pour s'assurer du fait, lors de la construction, que l'on collait aussi à ce modèle acoustique.
On va en écouter un extrait donc d'un morceau réalisé avec ce facsimilé. Qui date donc
de 2010. L'original,
c'est fin du 16e, c'est ça?
Et voilà, et cette construction, cet instrument a été fabriqué en 2010, en effet, par Stéphane Barber.
Donc on va entendre un morceau d'Enriquez de Valderavana, interprété par Miguel Henry. Que nous dit cet instrument sur, je ne sais pas comment il s'inscrit dans les collections, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi sur l'histoire de la musique ou sur l'évolution de cet instrument qui va devenir une guitare?
Ben, lorsqu'on visite le musée, on peut voir l'original. Alors effectivement, pas tout à fait en vrac, mais enfin, on voit une caisse et puis une table qui sont séparées. Et puis voilà, on comprend que ça fait partie d'un même ensemble. Mais c'est vrai que pour le visiteur, c'est un petit mystère aussi de voir cet instrument. Nous exposons aussi d'ailleurs dans un autre espace du musée, qui est un espace totalement dédié au jeu, le facsimilé que l'on entend, que l'on vient d'entendre. Et donc je pense qu'il y a une histoire qui est racontée à travers cela. Cette vihuela originale est montrée aux côtés de guitares du XVIIe siècle, et donc on commence à voir comment il y a une histoire de cet instrument qui apparaît. Et tout ça est effectivement supporté grâce au facsimilé par cette dimension sonore où on peut commencer aussi à se dire on n'est pas tout à fait dans la même sonorité que la guitare baroque, on n'est pas dans la sonorité du luth non plus, donc on est vraiment dans un univers qui est quand même différent, et pour lequel, comme disait Thierry Maniguet, existe toute une littérature dont nous ne demandons qu'une chose finalement, c'est que les musiciens s'en emparent en fait, enfin ils la découvrent ou la redécouvrent grâce à l'instrument, quoi.
Il faut dire que les visiteurs du musée peuvent écouter en même temps qu'ils voient les instruments, peuvent écouter leur son grâce à un casque qui...
Voilà, donc c'est un musée qu'on visite en musique, ça paraît assez logique, mais au moment où le musée a ouvert en 97, c'était une innovation, peu de musées d'instruments avaient à l'époque adopté ce genre de système, de casque. Et c'est un parcours sonore à travers lequel on chemine en visitant les salles et dans la plupart des cas, effectivement, on peut entendre l'instrument qu'on voit dans les vitrines ou qui est exposé ou une de ses copies. Donc on essaye vraiment d'être assez proche, d'allier l'œil et l'oreille, je dirais, de manière la plus proche possible.
D'où l'importance de ces sons qui renaissent du passé, puisque justement, ils vont pouvoir permettre d'illustrer les instruments, la visite des instruments que vous exposez.
Je pense qu'il raconte aussi comment cette histoire de la musique s'est constituée. Elle n'est pas née ex nihilo, elle s'est construite par toute une série d'expérimentations, d'essais, de réussites, d'échecs aussi. Il y a des instruments qui n'ont pas connu d'avenir aussi. On en voit. Je peux citer un exemple que Thierry connaît bien, sont les instruments de sax, dont finalement, il y a eu une multiplicité d'instruments qu'il a inventés, et puis finalement, on n'en retient qu'un certain nombre, on en redécouvre aussi aujourd'hui. On voit comment cette histoire, et on entend comment cette histoire s'est constituée, en lien aussi avec ce dont on a parlé tout à l'heure aussi, par exemple, l'évolution des lieux et des salles de concert, qui sont illustrées dans le parcours du musée, à travers notamment des maquettes qui reconstituent en quelque sorte comment la musique était entendue dans une salle du palais de Mantoue pour l'Orfeo de Monteverdi, dans la cour de Versailles, et puis petit à petit l'apparition à la fin du 18e de salles de concert en tant que telles. Donc il y a aussi, je dirais, quelque chose qui est dit sur la réception de la musique et la manière dont la musique était entendue.
Alors il y a également des instruments un peu étonnants ou des sons très étranges que l'on peut découvrir grâce à ces facsimilés, en particulier les ondes Martenot. Alors qui veut nous expliquer de quoi il s'agit? Thierry Maniguet.
Oui, les ondes Martenot, c'est un des premiers instruments électroniques, électroacoustiques, inventés en 1927 par Maurice Martenot, qui était lui-même violoncelliste, mais qui était aussi qui était dans qui était technicien radio à l'époque, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et cet instrument assez extraordinaire est encore joué de nos jours, mais il est menacé de disparition. Parce que ces premières techniques qu'il a pu utiliser aujourd'hui nous sont un peu inconnues. Maurice Martenot avait un peu le goût du secret. Et donc, on n'en est pas tout à fait au stade du facsimilé. Il existe des copies de ces instruments, mais en tous les cas, des facsimilés partiels. C'est-à-dire que les musiciens, c'est aussi une de nos missions, viennent nous voir parce qu'on a un certain nombre d'instruments. On a gardé aussi beaucoup d'archives autour de ce facteur et viennent nous voir en disant « Voilà, moi, mon instrument, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, je ne vais plus pouvoir le jouer. Ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et c'est aussi ça, le rôle du laboratoire. Notamment, il y a une touche d'expression dans une onde Martenot qui ressemble un tout petit peu au coup d'archet. Maurice Martenot lui-même...
Ça ressemble à quoi, alors ?
C'est un instrument à clavier, électronique, mais qui a un certain nombre de diffuseurs qui, eux, sont véritablement acoustiques. Il y a une sorte de haut-parleur couplé à une table d'harmonie avec des cordes dessus. Ce sont les diffuseurs sont électro-acoustiques, vraiment. Et on va l'entendre après, les timbres que l'on peut faire sur cet instrument sont absolument fabuleux, bien avant les sons de synthèse qu'on en a pu faire à partir des années 60 et 70. C'est un instrument sur lequel on peut faire du vibrato et... là aussi, on a beaucoup de littérature pour cet instrument, de littérature non seulement des années 30, mais jusqu'à un des compositeurs encore de nos jours. On compose pour cette onde Martenot et nous sommes en train de travailler justement sur cet instrument pour lui, autant que faire se peut, lui permettre de survivre.
Donc là, on va pouvoir écouter un morceau joué avec cet instrument.
Voilà, une pièce de Tristan Murail, La conquête de l'Antarctique. C'est un extrait, parce que c'est une pièce qui est assez longue. C'est une pièce qui est jouée par Nadia Radzimondresi, qui est une grande spécialiste de l'onde Martenot, qui elle-même joue une onde récente, puisqu'elle joue de son instrument, dans le cas d'espèce, qui est un instrument de la fin des années 70.
On écoute ça. Alors c'est quand même assez sidérant, c'est la date de
1927. Alors cette version-là est un peu plus tardive, puisque justement là, on entend bien ces fameux diffuseurs. On entend ici le gong métallique, on entend la palme, on entend tous ces diffuseurs auxquels Martenot a donné des noms particuliers, mais qui permettent tous ces timbres extrêmement différenciés à partir d'un système acoustique extrêmement simple.
On jurait que ça sort d'un ordinateur.
Voilà, en fait. Ce sont des oscillateurs hétérodynes, c'est un son différentiel. Mais c'est grâce justement à ces diffuseurs qu'on peut avoir cette immense diversité de timbres. Et par les contrôleurs gestuels, le clavier, le vibrato du clavier, cette touche d'expression que l'on a, un champ de liberté. Et c'est pour ça que c'est un instrument, un des très rares instruments électroniques du début, qui est encore joué aujourd'hui.
Alors, Stéphane Wedlich, est-ce que vous travaillez sur ce genre d'instrument un peu étrange et aussi hors norme ?
Oui, nous travaillons, nous venons de finir d'ailleurs une recherche justement sur cette touche d'expression, sur cette boîte d'expression qui est un peu un invariant dans tous les différents modèles qu'on, pardon, qu'on voit dans les ondes Martenot, en collaboration avec d'ailleurs l'ingénieur de l'équipe acoustique musique, Laurent Cartier, et d'autres encore. Et on est face à quelque chose de très intéressant qui rejoint ce que disait Eric il y a peu de minutes. Comprendre les modalités de fonctionnement de la matière permet de sauvegarder le geste musical. Alors il ne s'agit pas d'aller dans l'expression musicale, mais il s'agit pour nous au niveau du laboratoire de comprendre justement l'interaction entre le geste et la source de rayonnement. Et le travail qu'on a pu faire de caractérisation de cette poudre qui est un diélectrique un peu particulier, qui est une sorte de mélange entre une idée de violoncelliste et de Jean des télécoms, puisqu'on y associe une gestuelle d'archet avec des matériaux qui viennent des télécoms, du graphite, du mica, des choses comme ça. Le tout dans une petite gaine en cuir, enfin, c'est assez étonnant. C'est un brevet de 1931, du 4 janvier 1931, et qui donne une possibilité expressive assez étonnante.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture, en direct depuis le studio 167 de la Maison de la Radio. Nous débattons aujourd'hui de la question: peut-on ressusciter les instruments de musique anciens? Avec Claudia Fritz, chargée de recherche au CNRS, dans l'équipe Lutry Acoustique et Musique de l'université Pierre et Marie Curie, Éric de Vichère, directeur du musée de la musique à la Cité de la Musique, Thierry Maniguet, conservateur à ce musée de la musique, et Stéphane Wedlich, responsable du laboratoire de recherche et de restauration du musée de la musique. Alors, l'avenir de votre travail va se heurter finalement à la musique qui, elle, est issue de, peut-être de cet ancêtre que sont les ondes Martenot, c'est-à-dire la musique électronique. Là, plus peut-être besoin d'autant d'efforts pour maintenir une musique qui est purement presque informatique. Éric de Vichère.
Ben, c'est un vrai sujet et c'est un défi pour nous, je dirais, à la fois en termes de conservation, c'est-à-dire comment conserver ces instruments électriques, électroniques, comment faire en sorte que ces matériaux dont on ne connaît finalement pas la durée de vie, l'évolution dans le temps. Il y a aussi les matériaux solides, type les matériaux plastiques, par exemple, qu'on trouve sur une guitare électrique ou qu'on trouve sur d'autres types d'instruments du XXe siècle. Donc il y a une recherche, il y a des projets en tout cas qui sont menés au sein de nos équipes sur ce sujet-là et qui touchent d'ailleurs, ou qui rencontrent en tout cas des préoccupations d'autres musées, y compris en dehors de la musique, des musées d'art contemporain ou d'art moderne qui sont aussi confrontés à ces questions liées à ces nouveaux matériaux. Il y a à la fois la conservation de l'objet et il y a aussi effectivement la question du répertoire, c'est-à-dire comment continuer à jouer ces œuvres de Messiaen, de Muraille qu'on a entendu, enfin des compositeurs qui ont utilisé des instruments entre guillemets d'époque qui n'existent plus, pas nécessairement aujourd'hui. Donc comment faire en sorte de pouvoir maintenir ces instruments ou certains d'entre eux en état de jeu? Et puis ça pose aussi un problème ou une question en tout cas en termes de je dirais aussi de développement de la collection, parce que nous sommes une collection qui évolue. On continue à pouvoir, heureusement, encore faire des acquisitions et développer cette collection. Et donc, lorsqu'on va vers les instruments du XXe siècle, quelles sont les directions que nous devons prendre? Finalement, l'instrument, c'est aussi en quelque sorte dématérialisé, est devenu un logiciel qu'on fait tourner sur n'importe quel ordinateur. Donc aujourd'hui, acquérir un ordinateur n'a pas beaucoup de sens parce qu'il est identique à celui que vous avez dans votre bureau. Mais est-ce que ce sont les logiciels? Comment là aussi conserver cette mémoire, cette trace?
Les enceintes peut-être, ou les amplis qui sont transmetteurs de ces logiciels?
Exactement, il y a aussi tous ces outils-là, du micro, enfin il y a toute la chaîne effectivement d'enregistrement, de diffusion. Ce sont des questions effectivement qu'on se pose aujourd'hui en termes aussi de développement de la collection.
On va y revenir, mais je voudrais quand même que, pour boucler un petit peu avec le début de l'émission, que Claudia Fritz nous donne quelques idées sur l'avenir de ces travaux, puisque là, vous avez fait ce test, et c'est une des critiques d'ailleurs qui est mentionnée dans l'article du New York Times, dans des conditions peut-être acoustiques qui ne sont pas parfaites. Donc il y a peut-être...
J'ai une réponse très claire à ce sujet.
Donc c'est un violoniste qui vous accuse d'avoir fait ça dans une chambre d'hôtel.
Non, évidemment, il y a pensé hein, quand même.
J'imagine.
En fait, les musiciens, quand on leur demande les meilleures conditions pour juger un instrument au départ, c'est une condition justement de petite salle assez sèche. Parce que les musiciens veulent d'abord entendre l'instrument avant d'entendre
la réverbération
de la salle. Donc, là, généralement, la première chose qu'ils font, c'est l'écouter dans une salle plutôt sèche. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand ils vont chez un luthier. Quand ils vont chez un luthier, le luthier n'a pas à disposition une salle de concert pour faire écouter ces violons. Mmh. Les luthiers ont des ateliers avec des salles plutôt sèches. Donc, les gens qui disent ça, cette critique, c'est finalement déjà biaisé par cette idée de l'instrument ancien et meilleur dans une salle de concert. En fait, si on donne un instrument moderne à un musicien, s'il ne l'aime pas, ce qu'on appelle sous l'oreille, c'est-à-dire dans une petite salle sèche, le musicien ne va pas prendre la peine d'aller l'essayer dans une salle de concert. Il va dire « je ne l'aime pas » et ça s'arrête là.
Tant que l'essentiel de son travail sur l'instrument ne se passe pas dans une salle de concert, voilà. J'imagine plutôt dans une salle ordinaire. Voilà.
Donc de toute façon, il ne fera pas l'effort d'aller le tester. Par contre, si on donne à un musicien un Stradivarius, qu'il le joue, il y a quand même beaucoup de cas où l'instrument n'est pas forcément aimé directement, mais les musiciens se disent « c'est pas possible, c'est un Stradivarius, ça doit bien sonner », et vont donc travailler dessus. Et il n'est pas rare d'entendre que des gens ont mis un an, en tout cas plusieurs mois, voire un an, à vraiment maîtriser cet instrument. Mais selon, ça se trouve, c'est exactement la même chose pour les violons modernes, mais personne ne fera l'effort de le faire. Et donc cette idée que l'instrument ancien est mieux dans une grande salle, peut-être, mais le violon moderne peut-être aussi, en fait. Donc le problème, c'est que les gens ne vont pas faire l'effort de le jouer dans une grande salle si c'est un moderne et qu'ils n'aiment pas au départ. Mais ça soulève quand même une question de fond de comment un instrument, pourquoi tel instrument, peu importe finalement que ce soit un vieux ou un ancien, ça, c'est un vieux ou un moderne, c'est des questions, je dirais, plus fondamentales que j'aimerais commencer à investiguer dans les prochaines années. C'est qu'est-ce qui fait qu'un instrument projette ? Est-ce que, donc les musiciens parlent beaucoup de cette idée de projection, donc ça traverse une salle, c'est pas une question de puissance, et c'est quelque chose qu'on ne comprend toujours pas. Et qu'est-ce que c'est que cette projection ? Et donc, je pense que c'est des études beaucoup plus fondamentales à faire, fondamentales entre guillemets, c'est peu importe finalement la date de fabrication d'un instrument, c'est qu'est-ce qui fait qu'un instrument, enfin, en particulier là, le violon, passe au-dessus d'un orchestre, passe au-dessus d'un piano et va projeter à la fin de la salle. Et comment on peut le sentir en le jouant dans une petite salle? Comment les musiciens peuvent avoir une idée de ça? Parce qu'il y a plein de musiciens qui disent « j'ai le sentiment qu'il va projeter », mais pourtant ils l'entendent sous l'oreille. Donc comment ils ont... Donc toutes ces questions-là...
Ça rejoint quand même beaucoup ce que suggérait tout à l'heure Stéphane Wedlich, c'est-à-dire l'aspect psychoacoustique qui joue... semble-t-il aussi un rôle important et qui, lui, dépasse la matérialité pure de l'objet.
Oui, je pense que, là encore, que le travail du musée s'arrête à l'endroit où l'objet s'arrête. Je crois que nous, au labo, ce qu'on est capable de comprendre,
Cette capacité dont parlait à l'instant Claudia Fritz, est-ce que vous pensez qu'elle est inscrite dans la matérialité de l'objet ou est-ce que c'est une autre dimension qui intervient?
Au départ, elle peut être inscrite dans la matérialité, mais...
Elle peut être inscrite dans la matérialité, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que ça... C'est aussi inscrit dans l'écriture musicale. Il y a un problème de tessiture en rapport avec les capacités de l'oreille. Mmh. On sait bien que le téléphone, ça marche sur une bande passante très courte. On reconnaît quand même les gens au bout du fil. Enfin, au bout du fil, excusez-moi, c'est une expression de vieux. On reconnaît les gens. Mais cette idée... De reconnaissance et de signature, de reconnaissance de la forme, elle peut être inscrite dans l'instrument en lui-même. On reconnaît la signature d'une viluela par rapport à la signature d'une guitare, et de près ou de loin, vraisemblablement de loin aussi, et on peut comprendre ces modifications de signature acoustique, on peut les relier aux ruptures organologiques, on peut les relier aux modifications de l'architecture et aux modifications des matériaux. Mais ce n'est pas vrai pour tous les instruments, c'est vrai pour celui-ci en particulier.
Alors un gros projet donc, qui aujourd'hui aboutit, c'est ce facsimilé de Piano Erard. Thierry Maniguet, est-ce qu'il y a d'autres grands projets de ce type à l'œuvre pour les prochains mois ou années? Du moins un qu'on peut citer en cette fin d'émission.
On en a plein, des projets. Mais un projet comme celui-ci, il ne faut pas le cacher, onéreux d'ailleurs.
Ça coûte combien, ouais, un facsimilé? On n'en a pas parlé de cet aspect-là.
Écoutez, en tous les cas, on n'a pas pu l'assumer. On n'a pas pu l'assumer seul, et c'est ce que je m'apprêtais à dire, à savoir que on l'a eu grâce à la Fondation Hermès. On a pu acquérir cet instrument auprès d'un facteur grâce à l'aide de la Fondation Hermès. mais je me tourne vers mon camarade pour qu'il me donne le montant exact.
On n'avait pas l'air tous d'accord sur le
non, parce que c'est Stéphane Lédiche qui tient les additions. Moi, je commande, vous voyez comment c'est dans notre couple.
Voilà, moi j'ai le mauvais rôle.
D'accord.
Je fais la réception des travaux, je me bagarre avec les facteurs.
Que donne l'addition alors ?
Un piano comme ça, c'est 4000 heures de travail. Sans compter les travaux de recherche qui ont été faits en amont. Et la Fondation Hermès a mis la main à la poche très, très fortement, à concurrence de près de 100 000 euros.
100 000 euros, donc, pour à peu près.
Enfin, le piano vaut même un peu plus.
Il vaut plus, dans la mesure où, comme vous dites, il y a eu toutes les études, puisque vous êtes une sorte de maître d'œuvre de ce genre de projet, j'imagine.
Voilà, si vous voulez, il y a des heures de microscope électronique, il y a des heures de technologie de haut niveau.
Qui ne sont
pas comprises
dans ces
cas. Il y a l'École normale supérieure de Lyon qui a fait un travail de recherche d'ADN pour identifier ces cuirs utilisés sur les marteaux qui nous posaient problème parce qu'ils étaient originaux.
Thierry Maniguet, vous n'avez plus que quelques secondes pour me dire quel est le prochain facsimilé.
Tous les cas, si on ne valorise pas tout cela, c'est pour ça que j'ai un peu tergiversé, l'instrument, nous l'avons payé 150 000 euros, voilà, au facteur. Mais globalement, si on valorise tous ces travaux, évidemment, c'est beaucoup plus. Alors, les prochains projets...
Très vite, on travaille
sur des facsimilés partiels. Nous sommes en train de faire des copies, non plus d'instruments entiers, mais des mécaniques de piano romantique. Parce que là, le problème est un peu différent. On a toujours ce problème de marteau et de garniture. Et plutôt que de refaire une copie d'instruments entiers, nous nous concentrons sur le moteur du son, qui est la mécanique, et nous faisons des facsimilés de mécanique ensemble.
Donc le piano romantique s'inscrit entre...
À partir des années 1830, nous travaillons sur deux instruments.
C'est la suite un peu de l'ère rare.
Véritablement l'instrument qu'a pu connaître Chopin, à savoir un Pleyel de 1830 et un autre de 1842.
Merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Claudia Fritz, Éric De Vischer, Thierry Maniguet, Stéphane Wedlich d'y avoir participé sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Vous trouverez des références de sites internet et d'ouvrages sur les instruments de musique. Vous pourrez également visionner d'ici quelques minutes un reportage vidéo réalisé par Sciences Publiques pour Sciences Publiques dans le laboratoire du Musée de la Musique à Paris. Une mise en image de cette émission en quelque sorte que nous vous offrons pour débuter l'année 2012. Enfin, vous pouvez, comme toujours, réécouter cette émission pendant plusieurs mois et la podcaster pendant une semaine. La semaine prochaine, vendredi 13 janvier 2012, nous resterons dans le domaine du son et de la musique avec une émission consacrée à une unité méconnue ou mal connue, le décibel, à l'occasion de la 9e semaine du son qui débute le 16 janvier à Paris et qui consacre une journée spéciale à cette unité. Nous tenterons de nous familiariser avec le décibel qui, contrairement au mètre, au kilo ou au watt, ne nous permet pas d'évaluer spontanément la puissance sonore dans notre environnement. Pourtant, les nuisances liées au bruit sont désormais reconnues comme faisant partie des plus nocives pour notre santé. Avec nos invités parmi lesquels Christian Hugonnet, président et fondateur de la Semaine du son, nous nous attacherons à mieux comprendre l'échelle logarithmique du décibel. Sciences Publiques, Dany Journeau, Emmanuel Morse-Duncan, Catherine Donnet, Michel Albert-Gonti. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges. Pour l'instant, il est presque 15h. Nous vous laissons en compagnie d'Adel Ouad Meddeb pour Culture d'Islam. Merci à tous et à nouveau tous nos voeux pour 2012. Excellent après-midi sur France Culture et rendez-vous la semaine prochaine.